Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au téléphone, aujourd'hui, nous sommes avec trois personnes bibliothécaires, à commencer par Françoise, bonjour.
Bonjour.
Amélie.
Bonjour.
Et Philippe.
Bonjour.
Donc, tous trois, vous êtes bibliothécaire dans le département de la Drôme et vous êtes ici pour nous parler de Bib sans passe, un mouvement de protestation contre l'imposition faite au personnel des bibliothèques et médiathèques de l'obligation du pass sanitaire pour exercer son activité professionnelle.
Je précise que c'est aussi en direction du public, le contrôle. Notre contestation est surtout basée là-dessus.
Sur le filtrage, le contrôle des usagers pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur des établissements.
Ce qui implique justement donc un manque d'accès pour beaucoup d'individus à la bibliothèque, aux livres, aux savoirs, c'est ça?
Ben en fait, notre métier, à la base, une des valeurs fondamentales, c'est quand même l'accès pour tous. Donc là, en fait, pour nous, ça touche vraiment une des valeurs fondamentales de notre métier, qui est l'accès pour tous sans discrimination. C'est pour ça qu'il y a un mouvement national à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça touche vraiment nos valeurs fondamentales. Nous, on travaille pour que tout le monde vienne. On a des actions en dehors des médiathèques pour faire en sorte d'aller chercher le public qui ne vient pas. Et en fait, c'est vraiment le cœur de notre métier.
Étonnamment, les librairies ne sont pas concernées par cette obligation. On peut ressentir un certain décalage, justement, sur l'égalité et la liberté d'apprendre ou de savoir.
Oui, l'égalité d'accès est complètement mise à mal. Ce qui est un petit peu étonnant justement et qui nous heurte, c'est que, en fait, tout d'un coup, les bibliothèques deviennent dangereuses. Il y a eu un article dans Télérama là-dessus qui était plutôt bien fait et qui dit, bon, alors, les librairies sont essentielles, les bibliothèques ont été déclarées essentielles, la lecture a été déclarée grande cause publique par le président. Il y a une loi qui est en train d'être votée sur les bibliothèques justement pour reconnaître, cette mission, cette valeur d'accès pour tous. Et là, tout d'un coup, oui, un petit peu. Moi, j'étais un petit peu estomaquée par ça au mois de juillet, de dire que les bibliothèques allaient devoir contrôler leurs usagers. Donc, voilà, moi, ça, c'est vrai que je trouve ça assez violent. Et c'est pour ça que j'ai participé aux mobilisations. J'essaye aussi d'être en coordination avec Bib sans passe. Et je crois que toute mon équipe est derrière moi, ça fait plaisir.
À votre connaissance, quelles sont les argumentations pour procéder au niveau des médiathèques? Parce qu'il y a eu le même problème aussi avec le personnel hospitalier.
Quelles sont les raisons?
Les raisons, vous voulez dire, de ces protocoles sanitaires nouveaux appliqués aux bibliothèques?
Aux médiathèques, oui, aux bibliothèques. Ouais.
En fait, on fait partie d'un ensemble. En fait, on fait partie d'un groupe de bâtiments. En fait, c'est les bâtiments
c'est
de type
des
S.
Voilà.
C'est parce qu'on est des établissements recevant du public de type S. Du coup, on fait partie d'un ensemble d'établissements publics de type S. Sauf que nous, quand même, on est un service public avec un accès gratuit. Et du coup, ça pose problème parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres structures concernées dans ce cas-là.
Oui, c'est sûr. D'ailleurs, l'accès aux mairies, aux établissements administratifs n'est pas concerné par le contrôle du pass. Donc, c'est d'autant plus incompréhensible pour nous et incohérent. Surtout qu'on a quand même passé un an et demi à peu près à appliquer tous les protocoles sanitaires. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de cluster Covid dans les bibliothèques. Voilà, on aimerait qu'il y ait cette exception. C'est pour ça qu'on se bat, qu'il y ait cette exception culturelle, parce qu'il y a les bibliothèques et les lieux de culture, moi je rajouterais aussi dans mes
Alors,
mobilisations en fait.
À l'heure actuelle, vous avez pu chiffrer en quelque sorte le déficit de fréquentation au niveau des médiathèques?
Alors, il y a eu un sondage qui a été fait par l'Association des bibliothèques de France, que vous pouvez trouver en ligne sur leur site, qui montre justement une baisse de fréquentation. Alors là, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, cette étude montre qu'il y a une baisse de fréquentation nationale dans nombreuses médiathèques. Et voilà. Que aussi 88% des bibliothécaires sont contre le pass sur ce sondage. C'est un sondage qui est assez intéressant, qui montre bien, du coup, je trouve, ce qui se passe au niveau national. C'est la première étude qui a été faite là sur le sujet.
Et à votre avis, quelles sont les personnes impactées?
Alors, pour l'avoir vécu avant d'être suspendu, ce sont les personnes les plus précaires qui subissent ces directives. Il y avait plusieurs usagers dans la bibliothèque où je travaille qui venaient pour des connexions Internet pour leurs papiers administratifs et qui n'avaient pas forcément soit un schéma vaccinal complet, soit des tests et qui se faisaient refouler. Pour l'avoir vécu, ce sont surtout les publics les plus précaires qui subissent ces directives.
Et il y a aussi les ados, du coup, parce qu'il y a pas mal d'ados qui ne sont pas vaccinés et qui, du coup, ne peuvent plus rentrer à la médiathèque. Et moi, j'ai quand même eu des retours de bibliothécaires qui ont vu des ados pleurer à l'entrée d'une médiathèque parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Voilà, donc je trouve que c'est assez violent de faire subir ça à des enfants. Les bibliothèques, en fait, c'est des lieux refuges pour les ados. Et souvent, à la fin des cours, ils viennent à la médiathèque en attendant le bus. C'est des endroits où ils viennent s'asseoir. C'est des endroits qui sont rassurants aussi pour les parents. Et en fait, c'est tout ça qui est en train d'être enlevé aussi.
Vous-même, donc, êtes dans l'obligation de contrôler l'accès des usagers dans les médiathèques. En principe, est-ce que vous en avez parfaitement les outils et le droit?
Alors, au niveau des outils, pour l'avoir vécu, ils l'ont mis à disposition quelques jours avant l'entrée de l'application du contrôle. Donc, il me semble que c'était au courant du mois d'août. Donc, tous les outils, qu'ils soient par le biais d'affiches ou par le biais de supports téléphoniques pour contrôler, ça, c'était déjà tout bien organisé.
Ouais. Après, en fait, chaque médiathèque n'a pas la même réponse. Il y a des médiathèques qui vont embaucher des personnes spécialement pour contrôler, pour que ce ne soit pas les bibliothécaires qui le fassent. Il y a des endroits où c'est les bibliothécaires qui sont obligés de le faire. À Grenoble, par exemple, il y a plusieurs bibliothécaires qui ont refusé de contrôler et qui sont en ce moment, du coup, sanctionnées parce qu'elles ont refusé de contrôler le pass. Toutes les collectivités n'ont pas la même réponse face à ça, en fait. Et ça, c'est vrai pour, je pense, pas mal de choses en ce moment. C'est-à-dire que chaque collectivité essaye de gérer comme elle peut et n'a pas les mêmes réponses face à ses salariés.
Oui, en ce qui concerne le public, moi, je ne travaille pas dans la même médiathèque que mes camarades. On essaye de jouer sur des leviers, alors avec des élus qui nous suivent ou pas. Là où je travaille, on a réussi à obtenir justement des élus une dérogation que si les élus veulent se positionner, c'est tout à fait faisable, une dérogation du contrôle du pass sanitaire pour les 12-17 ans pour motif de recherche. C'est dans le décret, c'est légal, tous les 12-17 ans sont de toute façon des chercheurs puisqu'ils sont à l'école. Et les élus alors de petites communes comme de grandes communes ont pu prendre position par rapport à ça. C'est déjà une petite victoire pour certains endroits.
Sachant qu'il y a 70 villes actuellement qui ont fait ce choix-là et qui se sont engagés à ne pas demander le pass aux plus de 12 ans, aux 12-18 ans, pour ces raisons-là. Donc en fait, toutes les médiathèques pourraient le faire. Si elle le voulait.
Au niveau de la Drôme, hein, puisqu'il s'agit de ce département dans lequel nous sommes, Il y a combien de structures telles que la vôtre ou telles que les vôtres qui sont dans ce même mouvement ?
Alors là, c'est pareil, c'est difficile de répondre à la question parce que ce mouvement, en fait,
c'est très hétérogène, ouais, déjà par rapport à la taille, au fonctionnement des bibliothèques, des médiathèques dans la Drôme. Il y a un gros réseau des médiathèques départementales qui est à la fois ouverte au public et qui aide les bibliothèques communales qui font l'office de médiathèque des médiathèques. Donc ça, ce sont des grosses structures avec du coup des tutelles différentes. C'est-à-dire le département, c'est pas la même tutelle que moi. Je suis dans une petite bibliothèque rurale avec parfois de l'associatif, des bénévoles aussi qui souffrent aussi de cette situation. Donc c'est difficile de dire. En effet, c'est très hétérogène. Ouais. Et il y a un nombre de structures. Donc la départementale, il y a quatre grands lieux. Plus la centrale à Valence et les petites bibliothèques, il y a au moins 150 petites bibliothèques ou points lecture dans la Drôme.
Et à côté de ça, il y a des grosses bibliothèques comme à Montélimar qui sont sous régime municipal ou l'Aglo à Valence qui.
C'est très diversifié, donc forcément, la réponse n'est pas évident.
Et du coup, dans les mobilisations, vous allez avoir des grèves juste avec la fermeture des établissements. Vous allez avoir des médiathèques qui vont faire grève avec du coup des actions devant la médiathèque pour essayer de sensibiliser le public et d'informer sur la pétition et sur les actions qui sont possibles pour essayer d'enlever le pass. Mais c'est difficile d'avoir un regard sur ce qui se passe vraiment
globalement
dans la Drôme. Parce que voilà, en fait, on est des bibliothécaires qui essayons de se mettre en mouvement. On n'est pas une structure organisée, quoi.
Et on a peu l'habitude dans les bibliothèques de ce genre de mobilisation. Enfin, on n'a pas beaucoup de syndicats, on n'a pas beaucoup de choses communes, en fait, pour revendiquer. Donc on est en train de s'inventer quelque chose, là, vraiment.
Oui.
Et puis pour avoir peut-être un phare au milieu de ce mouvement, il y a une page Facebook qui s'intitule « Bibliothécaire mobilisé » au pluriel.
Oui, alors ça du coup c'est pour faire un peu l'historique. C'est « Bibliothécaire mobilisé », c'est un groupe de bibliothécaires de Rochefort qui, voilà, face au pass et étant isolés, ont lancé cette pétition pour demander le pass. Dans la Drôme, du coup, il y a eu d'autres bibliothécaires qui se sentaient isolés, qui ont lancé le mouvement Bib sans passe avec un site internet qui, du coup, regroupe les informations de la mobilisation. Justement, la première action, ça a été de demander d'écrire aux députés et aux sénateurs, voilà, pour faire la demande du retrait du passe. Suite à ça, il y a eu aussi du coup d'autres bibliothécaires à Paris qui ont lancé des actions et à Albi. Et en fait, tous ces groupes de bibliothécaires se sont retrouvés après, grâce au numérique, avec une réunion à distance. Et c'est de là qu'est né en fait tout le mouvement national au niveau de cette demande de retrait de passe. Mais ça prend du temps parce qu'en fait, on est des bibliothécaires qui, avant, ne se connaissaient pas du tout et qui sont en train justement de créer un réseau qui n'existait pas avant. Donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et que ça commence à bouger et à se mettre en mouvement.
En plus de ça, il y a des auteurs qui viennent se greffer, des BDistes, des illustrateurs qui viennent se greffer au mouvement. Et même si ça les impacte moins, ils trouvent totalement incohérent et incompréhensible ce contrôle à l'entrée de ces lieux publics.
Et on commence à avoir des élus qui aussi commencent un petit peu à monter au créneau. Parce que là, il y a un article qui est passé sur Actualité avec des maires, l'association des maires ruraux, et il y a plusieurs groupements de maires, il y a eu à Haute-Savoie et puis il y en a un autre, je ne sais plus dans quel département, qui commence un petit peu à monter au créneau parce que, voilà.
Contre le pass en général, d'ailleurs.
Voilà, ils ne pensaient pas que le pass serait prolongé et du coup, ça commence vraiment à leur poser question ce pass voilà, au niveau médiathèque dans un service public et au-delà.
Le public, lui, pour sa part, quelle est sa réaction et sa mobilisation ?
Alors, c'est pareil, c'est très hétérogène. Je sais qu'il y a des associations, des groupements d'usagers qui commencent à se créer en France, justement, pour essayer d'agir. Je sais qu'à Cré, il y a un groupement d'habitants qui sont allés discuter avec les bibliothécaires, à Die aussi. C'est le cas dans d'autres endroits de France. Mais après, c'est pareil, tout c'est hétérogène, c'est difficile de dire... Il y a des publics qui a été agressif aussi. Il y a plein de choses, de situations différentes, je pense, en fonction des lieux et des médiathèques.
C'est ça. Moi, j'ai l'impression dans mon village, je suis dans un village, contrairement à mes camarades, que la plupart des lecteurs et des adhérents et des sont avec nous, sont avec l'équipe. Contre le pass. Il y a pas mal de petits messages de soutien. J'espère que oui, on va fédérer tout le monde autour de ce sujet.
Et je rajouterai un petit point. J'ai aussi l'impression qu'avec le temps, il y a certaines personnes, certains usagers qui ne viennent plus, plus admissible dans les médiathèques, ont décidé de ne plus venir. Il y a certaines personnes qui ont déchiré leur carte, qui ont demandé le remboursement de leur carte dans certains endroits où c'était payant, parce qu'ils avaient payé une adhésion et ils se retrouvaient dans l'impossibilité de rentrer. Donc il y a différentes formes de manifestation des usagers.
Mais voilà, comme on disait, il y a quand même une baisse de la fréquentation nationale, donc ça montre bien que ça pose problème quand même.
Oui, et puis le public est fragile, enfin c'est fragile la fréquentation d'un public. On était en train de retrouver un public suite au confinement, aux diverses choses qu'on avait faites, les drives, j'aime pas drive, mais les pré-emportés. On disait, ça y est, on est en train de les retrouver. Et là, c'est un petit coup dur quand même. C'est un gros coup dur, c'est pas un petit coup dur de devoir se conformer à ce pass. Et du coup, on les repère à nouveau. Et c'est vrai que du coup, comme tu dis, il y a des usagers qui vont pas venir, même si on propose des choses. Ouais, on va leur proposer, si vous voulez des livres, on peut vous fournir des livres à la porte de la médiathèque. Mais une médiathèque, c'est aussi un lieu de convivialité, de partage, d'échange. Et ça, si on le perd, on perd notre monde.
C'est ça.
Et c'est ma grande, grande inquiétude de perdre ce public et de perdre des fidèles aussi, hein, que ce soit les enfants, les personnes âgées qui passent juste pour parler 5 secondes, avoir un échange. C'est, pour certains dans mon village, leur sortie à la médiathèque, c'est leur sortie du jour. C'est le moment où ils parlent avec quelqu'un. Donc pour certains, c'est pas cette possibilité-là, c'est dramatique.
Et on perd aussi des partenariats qu'on a mis des années à construire, en fait. Moi, là où je travaille, c'est des partenariats avec des centres sociaux qui ne viennent plus. Et en fait, on passe beaucoup de temps à créer tous ces liens, en fait, avec les structures du territoire. Et là, en fait, on est en train aussi de casser tout ce travail de lien social qu'on a créé depuis des années pour toucher un public, justement, qui est plus distant face à la culture. Donc on est en train, en fait, de saboter des années de travail, quoi.
Votre sentiment sur cette démarche de l'imposition de pass sanitaire, au-delà de son aspect prévention, semble-t-il, qu'est-ce que vous y voyez, vous?
Pour moi, c'est violent, en fait, de devoir contrôler les gens, pour la plupart, que je connais. Je me sens pas du tout dans ce rôle. Et je pense que c'est contre-productif, complètement.
Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences et du coup, on n'arrive pas à comprendre les décisions. Parce qu'en fait, ces décisions ne sont pas cohérentes. Si on compare certaines situations,
voilà, les bibliothèques universitaires qui sont exemptées, la BNF qui est exemptée, on va acheter un livre à la FNAC, il n'y a pas besoin de présenter un pass, donc au bout d'un moment, on n'en peut plus, en fait, de ces incohérences. Le lien social, la médiathèque y participe. Alors évidemment, il y a la poste, il y a d'autres endroits où on peut se rencontrer. Mais pour ma part, c'est le seul lieu culturel, la médiathèque, dans mon village. Donc échanger il y a l'échange, la convivialité, le partage, on en a parlé. L'accès aux livres aussi. Donc oui, en effet, le lien social est mis à mal par ce système. En plus, dans un milieu rural, oui, je pense. Enfin, d'autant plus, je ne sais pas, c'est pas les mêmes approches non plus.
Et il y a certaines bibliothèques communales qui sont obligées de fermer parce qu'elles sont majoritairement tenues par des bénévoles qui ne peuvent plus forcément.
Oui, les bénévoles qui sont soumis aux mêmes réglementations que nous, salariés. Donc, soit on perd aussi, moi c'est mon cas, on perd des gens qui font des ouvertures au public. Soit parce qu'ils ne veulent pas présenter un pass sanitaire, soit parce qu'ils ne veulent pas contrôler, soit parce qu'ils dénoncent ce système-là. Et en tant que bénévole, en effet, on ne va pas leur dire bah, « si, tu vas contrôler à l'entrée Gilbert ou José que tu croises tous les jours ». Ce n'est pas possible.
Vous parliez tout à l'heure d'incohérence dans cette procédure. Est-ce que ça, c'est un constat partagé aussi par les élus de ces petits villages ou de ces villes? Vous parliez de certains maires qui avaient pris des devants par rapport au pass. Est-ce que pour vous aussi, il y a l'espoir de vraiment pouvoir vous rassembler et d'être aussi une voix qui serait entendue pour cette campagne présidentielle qui arrive?
Alors, le mouvement prend de l'ampleur, il est quand même tout jeune. Là, on est mi-novembre, ça fait à peu près un mois et demi, donc il prend de l'ampleur. C'est difficile à dire. La prolongation du pass sanitaire a fait quand même beaucoup de mal, au-delà de l'incompréhension. Mais le mouvement perdure, il y a encore des journées de mobilisation qui sont prévues. Est-ce que ça aura un impact sur la présidentielle? C'est difficile à prédire.
Bon. Les bibliothèques, on est toujours... on est soit invisible depuis le début, soit on est trop visible.
Lorsqu'il y a eu le deuxième confinement au mois de novembre, les libraires ont quand même manifesté fortement et leur voix a été entendue et depuis ils sont ouverts sans restriction. Au niveau des établissements publics comme les médiathèques, les bibliothèques, c'est beaucoup plus inaudible. Il y a des lettres qui ont été écrites, envoyées à Madame Bachelot, ministre de la Culture. Il y a une pétition qui a été soumise. Sa réponse est dans le déni. Elle renvoie la balle au ministre de la Santé qui a toutes les clés en main. C'est difficile à prédire si ça peut avoir un effet sur la campagne. C'est pas le but. Le but étant de arrêter de contrôler les gens dans un milieu culturel ouvert à tous.
Vous parlez d'une pétition donc en instance qui s'intitule d'ailleurs « Pour une bibliothèque accessible à tous ». Cette pétition, on peut la trouver sur quelle adresse?
Vous pouvez trouver le lien pour aller sur la pétition sur le site de Bib Sans Pass. Donc c'est bibsanspass.wixsite.com/website. Après, si vous le tapez sur un moteur de recherche, il est référencé maintenant. Parce que là, vous donnez l'adresse de la pétition, c'est peut-être un peu compliqué.
C'est un peu compliqué, oui.
Mais la pétition, c'est sur change.org pour une bibliothèque accessible à tous.
Au-delà de ça, il y a aussi des images, des documents à observer ou à consulter sur ce site et même à télécharger pour ce mouvement. Donc, je précise aussi qu'il y a des grèves possibles apparemment jusqu'au 30 novembre, de manière aléatoire, je dirais.
Oui, le but, c'est que chaque médiathèque puisse se mobiliser comme elle le souhaite aussi avec sa réalité locale. Et entrecoupé de ça, des dates nationales. Donc là, la prochaine, c'est le 1er décembre, mais il est prévu une date par mois, jusqu'en juillet. Le but, c'est de continuer les actions pour être visible. Il y a aussi des tribunes qui sont publiées régulièrement dans des médias pour interpeller. Donc là, la dernière, ça a été une tribune qui a été signée par plus de 115 auteurs de BD pour soutenir notre action, puisque les auteurs BD sont aussi impactés. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une série avec 15 volumes.
de BD. Donc voilà, on a aussi des tribunes de libraires qui sont prévues avec soutien des libraires. Sur le site, vous pouvez trouver une liste de nombreux auteurs, illustrateurs, journalistes, éditeurs qui nous soutiennent. Sur le site, il est assez complet. Donc, il y a pas mal voilà, des dessins, des députés aussi et des sénateurs qui nous ont répondu et qui soutenaient notre action. Donc, voilà, il y a de la mobilisation.
Eh bien, Françoise, Amélie et Philippe, je vous remercie tous les trois de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous présenter donc Bible sans passe et ce mouvement aussi contre l'obligation du pass sanitaire dans les lieux de médiathèques et bibliothèques. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.